Bonjour et bienvenue. Vous écoutez On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Je suis Marine Botton et aujourd'hui nous visitons l'exposition de Kalila Wadimna à Jean de la Fontaine, Voyage à travers les fables. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Raouda Al-Abdouli, attachée de conservation au Louvre Abu Dhabi. Ensemble, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant des fables animalières et leur évolution à travers le temps. Saviez-vous que les fables sont nées en Inde et en Grèce ? Suivez-nous pour en savoir plus et découvrir l'influence de grandes figures comme Ibn al-Mukaffa et Jean de la Fontaine, ainsi que la manière dont ces histoires continuent d'inspirer les artistes d'aujourd'hui. Bonjour Raouda, merci beaucoup de nous accompagner pour la visite de cette nouvelle exposition de Kalila Wadimna à Jean de la Fontaine, Voyage à travers les fables, qui ouvre ses portes au Louvre Abu Dhabi. Commençons par le début. Qu'allons-nous découvrir dans cette exposition ?
Eh bien, cette exposition a été organisée en collaboration avec la BNF et nous y présentons 132 œuvres d'art, incluant des manuscrits, des illustrations, des tableaux. L'exposition porte essentiellement sur les fables animalières. Et donc, les fables sont un genre littéraire dans lequel des animaux parlent comme des humains. Et le but de ces fables est généralement de donner des leçons de vie et d'enseigner des valeurs morales. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers cette exposition.
Nous nous trouvons dans la salle d'introduction où nous sommes comme accueillis par ce livre gigantesque de 3 mètres de large, n'est-ce pas, à peu près ?
Tout à fait.
Et nous voyons qu'il est ouvert sur une double page écrite en arabe, je suppose.
Oui. L'idée était de faire entrer le visiteur dans l'univers des fables. Et quand on pense aux fables, on pense à un immense livre d'histoire avec des images. Nous avons donc ici une image, une reproduction de l'un des plus anciens manuscrits de l'exposition, ou plutôt l'un des plus anciens manuscrits illustrés de l'exposition. Et au-dessus, nous voyons d'autres illustrations qui volent et qui sont toutes issues des fables de La Fontaine, de Kalila Wadimna, d'Ésope, etc. L'idée était donc de montrer l'importance des illustrations, car elles servent au lecteur d'aide visuelle pour la lecture.
Oui, parce que comme vous le dites, nous parlons de livres d'histoire qui bien sûr sont constitués d'un texte avec une histoire, mais aussi d'illustrations, ce qui nous fait penser aux livres pour enfants. Mais ils ne s'adressent pas uniquement aux enfants, évidemment.
Bien entendu, c'est pour tous les âges et nous pouvons tous tirer des leçons de ces fables.
Très bien. Entrons dans l'exposition et découvrons la première section. L'exposition est divisée en 3 sections principales, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. La première section est consacrée au voyage de ces fables, la deuxième à la présentation des histoires et la dernière à la réception contemporaine des fables.
Entrons dans la première section de l'exposition. Elle s'intitule « Les voyages des fables » et nous nous trouvons face à 3 grands livres qui mettent en lumière les 3 acteurs principaux du monde des fables.
Tout à fait. Ce que nous avons essayé de faire ici, c'est d'explorer 2 traditions distinctes, la tradition orientale et la tradition occidentale de ces fables.
Tout d'abord, la tradition orientale. Qu'est-ce que cela signifie ?
La tradition orientale se réfère essentiellement à la tradition qui trouve son origine en Inde, avec le Pankatantra.
Qu'est-ce que le Pankatantra ?
Le Pankatantra est un recueil de fables animalières compilé en sanskrit.
C'est donc une tradition très ancienne.
Oui, c'est très ancien.
Et nous en avons là un exemplaire, et à côté, nous voyons aussi une photo d'un relief en pierre venant d'Inde, n'est-ce pas ?
D'Indonésie, en fait. Il s'agit d'un relief en pierre, en Indonésie, et qui montre que ces fables ont été illustrées très tôt. Et c'est intéressant parce que c'est une fable que nous verrons tout au long de l'exposition, la fable de la tortue et des 2 canards.
Gardons alors le suspense de cette histoire pour plus tard. Et donc, dans la tradition orientale, nous avons un écrivain célèbre.
Oui. Après le Pankatantra, nous avons la première traduction. Nous avons en fait 2 traductions. La première traduction est en syriaque, mais elle est maintenant perdue. Et ensuite, nous avons une autre traduction qui était en vieux persan, également connue sous le nom de Pahlavi. Et c'est à partir de cette version que nous avons obtenu la traduction arabe.
D'accord.
La traduction arabe a été réalisée par Ibn al-Mukaffa. Ibn al-Mukaffa était d'origine persane. Il a donc pu traduire la version persane en arabe. Et d'ailleurs dans un très haut niveau de langue arabe, parce qu'au cours de sa vie, Ibn al-Mukaffa a vécu avec des bédouins. Et les bédouins sont connus pour leur haut niveau de langue et leur talent littéraire. Et donc, le livre que nous avons ici, pour moi, est le chef-d'œuvre de l'exposition.
D'accord. Il s'agit donc d'un exemplaire de Kalila Wadimna, en arabe.
Oui, c'est un exemplaire de Kalila Wadimna, en arabe. Nous n'avons pas de date exacte, mais nous le datons d'environ 1220-1222.
Oui, et cette copie est magnifiquement illustrée. Nous voyons ces 2 chacals, l'un est bleu, l'autre est rouge, et ils sont identifiés, n'est-ce pas ?
Oui, le bleu est identifié en petits caractères arabes comme étant Dimna, et le rouge est Kalila.
Ce sont donc les deux personnages principaux de Kalila wa Dimna.
Les deux personnages principaux de Kalila wa Dimna, exactement. Et cette version d'Ibn al-Munkafa est en quelque sorte le point principal de diffusion de toutes les autres traductions. Elle a été traduite dans plus de 40 langues. Et c'est un peu ce que nous voyons ici dans ces vitrines, avec une sorte de chronologie de toutes les traductions, adaptations et transformations que le texte de Kalila wa Dimna a subi au fil du temps et à différentes époques.
Passons maintenant à la tradition suivante, la tradition occidentale. De quoi et de qui parlons-nous ?
Alors, dans la tradition occidentale, nous avons le personnage d'Ésope. Ésope était un écrivain grec légendaire qui aurait vécu aux alentours du VIe siècle avant notre ère. Ses fables étaient très populaires en Occident, et elles sont en quelque sorte l'équivalent de Kalila wa Dimna en Orient. De fait, je suis à peu près sûre que nous connaissons tous certaines de ces fables aujourd'hui, comme par exemple la fable du garçon qui criait au loup.
Oui, c'est vrai.
Ou la fable du lièvre et de la tortue.
Oui.
Ces fables ne sont donc pas seulement connues de nous, mais de tout le monde, en particulier en Occident, où elles étaient très largement diffusées et très populaires.
Et à partir de là, nous passons à Jean de La Fontaine.
Jean de La Fontaine est un écrivain français du XVIIe siècle, et il s'est inspiré à la fois des fables de Kalila wa Dimna et de celles d'Ésope. Dans son premier recueil de fables, il s'est inspiré d'Ésope et d'autres figures littéraires, mais il a ensuite publié un deuxième recueil de livres dans lequel il s'est inspiré de sources orientales, y compris par exemple le livre de Kalila wa Dimna. Il est donc en quelque sorte le point de convergence entre les deux traditions, entre l'Orient et l'Occident.
Mais il ne se contente pas d'une simple traduction, n'est-ce pas ? C'est vraiment une adaptation avec des fables originales.
Oui, c'est une réadaptation et une transformation des textes. Et c'est un peu ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième section, dans laquelle nous explorons les similitudes entre le texte de Kalila wa Dimna et celui de La Fontaine, notamment à travers les similitudes des histoires et des morales qu'ils ont cherché à transmettre.
Nous voyons donc que du VIe siècle avant notre ère en Orient au VIIIe siècle de notre ère avec Ibn al-Mukaffa et jusqu'au XVIIe siècle avec La Fontaine, il existe une longue tradition. Et nous allons voir maintenant, dans cette nouvelle section, raconter des histoires, certaines d'entre elles et comment elles ont été adaptées. Mais tout d'abord, parlons un peu de l'espace. Nous avons donc cette grande galerie.
Oui, et ce que vous voyez devant vous, c'est ce chemin jaune, que j'aime appeler la route de briques jaunes parce qu'il y ressemble un peu.
Oui, on voit bien ce chemin sur le sol.
Nous avons donc ce chemin, et puis nous avons des bannières suspendues. Et sur chaque bannière, nous voyons une morale ou un thème. Par exemple, on a l'amitié et l'alliance, se contenter de ce que l'on a, la ruse, les méfaits du mensonge, etc. Et l'idée était ici de regrouper sous ces morales des fables qui se rapportent au thème figurant sur la bannière.
Oui, et donc nous sommes guidés à travers ces différentes morales, et dans chaque groupe de vitrines, nous avons différentes interprétations artistiques de ces morales, n'est-ce pas ?
Oui.
Peut-être pourrions-nous regarder la première ?
Oui, regardons celle-ci. Ici, nous avons une horloge qui représente la laitière et le pot au lait. Et cela correspond au thème « agir sans réfléchir ». C'est l'histoire d'une laitière qui porte un pot de lait sur sa tête et qui se dit « avec ce lait, je vais faire du beurre, et ce beurre, je vais le vendre, et ainsi je vais devenir millionnaire ». Mais elle s'emballe, elle tombe, casse le pot de lait et perd tous ses espoirs de fortune.
Et cela illustre parfaitement l'idée d'agir sans réfléchir.
Oui, exactement. Et aussi l'idée de mettre la charrue avant les bœufs, sans bien penser d'abord. Et la même histoire se retrouve aussi dans les fables d'Ésope.
Et chez Ésope, on retrouve aussi la laitière ?
Oui, c'était aussi une laitière dans les fables d'Ésope. Et la même histoire se trouve aussi dans Kalila wa Dimna, mais elle a été adaptée avec d'autres personnages. Nous avons donc un dévot avec sa cruche de miel et d'huile, et c'est presque exactement la même histoire, avec seulement des personnages différents et
un cadre ?
Exactement, oui. Un cadre différent.
Nous voyons dans cette vitrine, avec cette horloge et ses manuscrits, que nous avons aussi une variété d'objets. Bien sûr, l'exposition nous invite tous à lire ces fables, à nous émerveiller devant les illustrations, mais aussi nous voyons leur impact sur les arts à travers différents médiums, comme la peinture, la céramique et ainsi de suite. Pour vous, y a-t-il une fable que vous préférez ou une fable qui vous semble particulièrement importante ?
Je pense que la fable de la tortue et des deux canards est intéressante parce que nous l'avons vue au début avec le Panchatantra, illustré sur...
Ah oui, sur la photo du relief en pierre.
Oui, ce relief venant d'Indonésie.
Alors, que raconte l'histoire ?
C'est l'histoire de deux canards et d'une tortue qui vivent près d'un étang et où les canards annoncent qu'ils vont quitter l'étang. Alors la tortue leur demande « S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous ».
Elle veut explorer le monde.
Exactement. Elle veut explorer le monde et aller avec eux parce qu'ils sont amis. Mais les deux canards se demandent « Comment veux-tu qu'on t'emmène ? Ça n'a aucun sens. » Mais la tortue n'arrête pas de les supplier, alors ils lui disent « Ok, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner un bâton. Tu vas mordre le bâton avec ta bouche et tu vas le tenir en serrant très fort. »
Pendant qu'eux-mêmes tiennent le bâton de chaque côté, c'est ça ?
Oui, et ils lui disent « Quoi qu'il arrive, tu n'ouvres pas la bouche. » Juste, tiens-toi tranquille et tiens bon. Et ainsi, ils s'envolent avec la tortue mordant le bâton et les deux canards qui en tiennent chacun une des extrémités dans leur bouche.
C'est assez amusant parce que nous regardons maintenant deux gravures où nous voyons littéralement les deux canards tenant le bâton et la tortue accrochée par son bec s'envolant dans le ciel.
Oui, c'est une illustration d'Oudry. Nous avons d'ailleurs plusieurs illustrations d'Oudry dans l'exposition.
Qui est un graveur et dessinateur français.
Oui.
Et ensuite, que se passe-t-il ?
Les gens en dessous d'eux commencent évidemment à réagir et ils se demandent « Mais qu'est-ce que fabrique cette tortue folle avec ses canards ?» Alors la tortue les entend, elle commence à s'agiter et ouvre sa bouche pour leur répondre. Aussitôt, elle chute et meurt.
C'est une fin très malencontreuse.
Oui, c'est une histoire assez triste, mais elle nous apprend à réfléchir avant de parler. Et encore une fois, à réfléchir avant d'agir.
Oui, et d'ailleurs, toutes ces morales font partie d'un genre important de la littérature, en particulier de la littérature orientale, à savoir le miroir des princes.
Oui, le miroir des princes était un genre littéraire qui cherchait à enseigner aux futurs souverains et aux futurs princes comment agir et comment se comporter. Et Kalila Wadimna, par exemple, était considérée comme un miroir pour les princes.
Mais bien sûr, ce n'est pas seulement pour les princes, et ce n'est pas seulement pour les enfants. Cela fonctionne à la fois pour les enfants et pour les adultes.
Oui, cela fonctionne pour les enfants et les adultes. Nous pouvons tous apprendre quelque chose de ces fables.
En parcourant cette section, nous pouvons inviter les visiteurs à découvrir les différentes morales. Sur chaque vitrine, il y a un petit résumé de ces histoires pour nous aider à comprendre les objets présentés à l'intérieur des vitrines. Enfin, la dernière section de l'exposition nous emmène dans le monde contemporain et nous voyons que la tradition perdure et se poursuit jusqu'à aujourd'hui dans l'art contemporain. Cette section s'intitule donc « Les fables aujourd'hui ». Qui sont les artistes présentés ici ?
Dans cette section, comme vous l'avez expliqué, nous essayons de montrer la réception contemporaine de ces fables. Nous avons par exemple cette œuvre d'une artiste turque qui s'appelle Melis Büyürük.
Oui, elle est sur notre droite et elle attire vraiment l'attention parce que faite de ce grand panneau carré couvert de, je ne sais pas, de milliers de petites pièces de porcelaine qui brillent, tout est blanc et or et la surface est entièrement recouverte.
Et au milieu de la composition, on voit les figures de Kalila Wadimna.
Oui, nous avons comme ces deux têtes de chacal qui émergent de, je ne sais pas, on dirait que ce sont de nombreuses fleurs.
Oui, la flore et la faune. Et d'ailleurs, plus vous regardez de près, plus vous en voyez en fait. Vous voyez d'autres figures d'animaux, de fleurs, ainsi que des lèvres humaines. L'artiste a essayé de créer un être vivant tout entier en ajoutant différents éléments que l'on voit dans la nature. Que voyons-nous dans la nature ? Des animaux, des fleurs, des humains qui sont représentés par ses lèvres. Cette œuvre fait partie d'une série intitulée Habitat. Et donc c'est bien une sorte d'habitat, une sorte d'œuvre d'art vivante qui respire.
Avec toute une myriade de créatures. Et comme vous l'avez dit, plus on se rapproche, plus on voit de détails.
Cette pièce est adaptée spécifiquement aux fables de Kalila Wadimna, qui sont elles-mêmes complexes parce qu'il s'agit d'une histoire à l'intérieur d'une histoire à l'intérieur d'une histoire.
Oui, il y a donc ces multiples niveaux de récits emboîtés, un peu comme dans Les Mille et Une Nuits, qui est bien connu, et où il y a cette narratrice qui raconte une histoire, et à l'intérieur de l'histoire, il y en a une autre, etc. Nous pourrions peut-être jeter un coup d'œil aux autres artistes qui ont également interprété Kalila Wadimna, mais à partir du livre lui-même. Nous avons ici quelques artistes qui ont travaillé directement à partir de livres.
En effet, de nombreux artistes que vous voyez ici ont été inspirés par les miniatures et les manuscrits. Et en fait, certains artistes ont été inspirés par des manuscrits qui sont présents dans cette exposition, de sorte qu'on peut faire le lien entre les deux. Si vous regardez cette artiste ici, par exemple, Asma Bamin, c'est une artiste saoudienne qui s'est inspirée de miniatures. Elle les recrée en quelque sorte, et particulièrement cette miniature ici, qui représente l'histoire du crabe et du héron que nous avons vu tout au début sur le livre à l'entrée.
Ah oui, le grand livre dans la salle d'introduction de l'exposition représentait cette illustration.
Oui, et elle provient à nouveau du plus ancien manuscrit illustré dont nous avons parlé au début.
Nous voyons donc bien comment la tradition se perpétue jusqu'à aujourd'hui et comment elle inspire les artistes contemporains, comme nous venons de le voir. Qu'aimeriez-vous que le visiteur retienne de l'exposition ?
À la fin de l'exposition, nous invitons les visiteurs à s'asseoir ici et à lire. Nous avons un petit coin lecture avec des livres pour enfants et des livres pour adultes également. Nous avons aussi cet appareil qui est un générateur de fables par intelligence artificielle. Vous choisissez vos propres héros et votre morale, et une fable est générée pour vous. Et vous pouvez l'emporter chez vous à l'aide d'un QR code.
Nous pouvons donc lire des œuvres originales, mais aussi créer notre propre fable grâce à ce dispositif d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Raouda, pour cette visite. Et nous invitons donc tous les auditeurs à venir visiter l'exposition qui sera visible jusqu'au
21 juillet.
Merci.
Merci.
Vous avez écouté un épisode de On Show, le podcast du Louvre Abu Dhabi qui accompagne votre visite. Vous pouvez visiter l'exposition de Kalila Wadimna à Jean de la Fontaine, Voyage à travers les fables, au Louvre Abu Dhabi du 26 mars au 21 juillet 2024. On Show est désormais disponible sur vos plateformes de podcast préférées en anglais, en arabe et en français. Il vous suffit de vous abonner au compte du Louvre Abu Dhabi pour découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes et pour ne pas manquer les prochains. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à nous donner 5 étoiles. On Show est un podcast produit par le Louvre Abu Dhabi, à la production Amine Karchache et Marine Botton. Enregistrement par Amine Karchache. Post-production, musique et mixage par Making Waves. Musique additionnelle composée par Yaroub Smaraït. Un grand merci à notre invité, Raouda Al-Abdouli, pour son aimable participation. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour nos prochains épisodes.